Ici l'Europe, Dominique Bayard, Caroline de Camaret.
Bonjour à tous et bonne fête de l'Europe. Tous les 9 mai, l'Union européenne célèbre la déclaration Schuman et la journée de l'Europe. En cette année de pandémie, en partenariat avec la représentation en France de la Commission européenne et du Parlement européen, nous vous proposons une émission spéciale sur France 24, RFI et Public Sénat avec un trio de choc.
Pour l'exécutif, la commissaire en charge de l'innovation, la jeunesse, la recherche et la culture, la Bulgare Maria Gabriel, issue des rangs du Parti populaire européen, en duplex avec nous depuis Bruxelles. Bonjour.
Bonjour aussi à Paris, depuis le Quai d'Orsay, au secrétaire d'État aux affaires européennes pour la France, Clément Beaune, du parti évidemment présidentiel centriste.
Et puis à Paris, toujours, pour représenter Bonjour. Le pouvoir législatif, le député européen Raphaël Glucksmann, président de la commission spéciale sur l'ingérence étrangère, membre du groupe socialiste et démocrate.
Alors nous avons reçu des milliers de questions pour vous, pour nos invités, donc, et nous allons ouvrir un chapitre international tout d'abord, avec quelques propos collectés sur la fête de l'Europe elle-même. Alors on commence par Gênes justement.
Qui nous a laissé un message sur Facebook. Je vois qu'il y a énormément de personnes qui ne savent pas encore différencier Europe et Union européenne. Quelle tristesse.
Alors, pour Clotilde, en ce jour, il n'y a rien à fêter, bien au contraire.
Tandis que pour Valentin, avec plein de smileys très engagés, 3 points levés, que ce jour soit une journée d'espoir pour l'humanité. Bonne préparation à tous et bonne fête à tous les Européens.
Que vous inspirent ces remarques, Madame la Commissaire ?
Bon, tout d'abord, bonne fête de l'Europe à tous les Européens et ceux qui se sentent Européens. Je commencerai avec une citation d'un des pères fondateurs de l'Union européenne, Jean Monnet. Il disait « L'Europe se fera dans les crises et elle sera la somme des solutions apportées à ces crises ». Donc aujourd'hui, pour moi, et les remarques qu'on entend, cela nous incite à souligner les deux aspects de cette journée de l'Europe. D'une part, c'est une célébration. Nous sommes restés unis, nous avons eu des beaux résultats ensemble, à commencer par la paix, il faut toujours le rappeler. Mais ensuite aussi, c'est une journée de réflexion qui demande à ce que chacun puisse apporter quelque chose à la solution qui verra une Europe encore plus efficace, une Europe encore plus en soutien de ses citoyens.
Alors Clément Beaune, cette année 2021, elle est encore marquée par le sceau du Covid. Qu'est-ce qu'on célèbre pour vous ?
Bonjour, je suis d'accord avec Maria Gabriel sur le fait que c'est une journée de réflexion. C'est une journée d'espoir, mais c'est une journée aussi d'engagement. Effectivement, on a tous vécu partout en Europe. C'est peut-être d'ailleurs pour beaucoup une sorte de première expérience européenne commune, difficile, qui est d'affronter cette crise partout sur le continent. Mais on doit se souvenir qu'il y a des moments qui ont été encore plus difficiles. C'était évidemment le cas juste après la guerre et quand seulement 5 ans après le second conflit mondial et ces destructions, ces morts, Robert Schuman a eu l'idée de la réconciliation et a lancé ce projet. On doit aussi avoir en tête à quel point on a besoin de garder ce projet commun, ce qu'il nous a déjà apporté. On peut le relativiser, on peut parfois le négliger, la paix, la prospérité, une forme de liberté européenne. Mais il ne faut pas, surtout pas, l'oublier. On a tendance trop souvent à le diluer, à le considérer comme un acquis. Et puis face à la crise, on voit, on y reviendra peut-être, qu'il y a beaucoup de solutions qui sont au fond européennes. Je pense qu'il n'y a eu pas assez d'Europe plutôt que trop d'Europe dans cette crise. Et en ce 9 mai, il faut aussi qu'on se dise qu'on doit être à la hauteur, qu'on doit réformer notre projet européen sans doute. Mais quand on voit à quel point c'était une idée folle, il y a un peu plus de 70 ans, de vouloir réconcilier les Français, les Allemands, les Européens, à construire ce projet commun, à mettre l'acier et le charbon, les moyens de la guerre, ensemble, on doit pouvoir aujourd'hui faire mieux, réformer, améliorer cette Europe sans la critiquer au point de vouloir la détruire. C'est ça que ça m'inspire et qu'on soit à la hauteur de cet engagement.
Raphaël Glucksmann, écoutons maintenant la question de Clémence, une jeune fille qui nous interpelle depuis un beau décor montagneux des Alpes.
Aujourd'hui, l'Union européenne connaît de plus en plus une montée de l'euroscepticisme. Cela s'illustre notamment récemment avec le départ de la Grande-Bretagne. Ma question est, comment construire une Europe plus unie qui rassemble les peuples pour construire notre Europe pour notre génération de demain.
Alors comment, Monsieur Glucksmann ?
Justement, cette question, elle montre que plutôt que de célébrer, on doit se mobiliser. L'Europe a permis des choses extraordinaires et la paix est la première d'entre elles. mais elle est aujourd'hui au milieu du guet et elle ne va pas si bien que ça. Et donc, il faut, pour répondre à la question, eh bien, des grands chantiers de mobilisation. C'est d'abord assurer l'autonomie stratégique de l'Europe. C'est d'abord assurer la réindustrialisation du pays et du continent européen. C'est sortir de 40 années de laisser-faire, laisser-aller qui ont affaibli l'Europe, qui ont désarmé l'Europe, sortir de l'idéologie du libre-échange et comprendre qu'en créant des grands champions européens industriels, en créant eh bien, un continent qui soit protégé par une taxe carbone, on va donner à l'Europe les moyens de protéger les citoyennes et les citoyens européens. Et alors, on pourra célébrer. Mais pour l'instant, finalement, on comprend trop peu et trop mal ce que l'Europe apporte en termes de protection dans un univers qui semble de plus en plus hostile et dangereux.
Alors, parmi tous les messages que nous avons reçus, beaucoup de messages qui regardent encore ce qui est derrière nous, ce qui vient de se passer. Et Diali, qui nous souhaite une bonne journée, car l'union fait la force, écrit-il. L'Europe, si loin et pourtant, doit être proche des citoyens. Il nous interpelle. On a vu avec la pandémie, chaque État s'est replié sur lui-même avec des fermetures de frontières. Comment faire ? Nous interroge Diali pour éviter ce genre de pratiques, les camions bloqués, les frontaliers qui ne peuvent pas aller travailler en Allemagne. Clément Beaune, ces divisions, est-ce qu'elles vont laisser des traces ?
J'espère que non, mais pour reprendre ce que disait Raphaël Glucksmann, ça doit nous alerter, évidemment. Quand on regarde à très grands traits ce qui s'est passé depuis le début de cette pandémie, au début de l'année 2020, on a eu un moment de choc dans lequel, effectivement, la tentation a été partout celle du repli sur soi. Parfois, je dois le dire, on n'a pas été nous-mêmes en France à 100% exemplaires, il faut aussi en tirer les leçons. Mais on s'est aperçu, notamment au moment de la première phase de la pandémie, qu'on n'avait pas d'autre choix que d'essayer de se coordonner et de coopérer. On a en quelque sorte réinventé en marchant la nécessité d'une coopération européenne. Avec ses réussites aussi, ses difficultés parfois, mais parmi ses réussites, je vois le plan de relance européen. Maintenant, c'est trop lent et parfois difficile de le mettre en œuvre, mais c'est quand même, il faut le dire, historique d'avoir réussi à ce que, au lieu de répondre justement chacun pour soi face aux difficultés économiques que provoquait cette crise, on ait réussi pour la première fois à mettre en place en solidarité, si je puis dire, nos efforts, nos financements pour relancer en même temps nos économies. Sur la question sanitaire, c'est plus difficile, c'est vrai, parce qu'il n'y avait pas de compétences européennes. Et là aussi, une des leçons qu'on doit tirer, c'est pas mettre de l'Europe partout, mais c'est pragmatique, je crois, c'est de se dire que quand on n'avait pas une coopération organisée forte sur le plan juridique, sur le plan budgétaire, sur le plan sanitaire, on y arrive moins bien.
Et alors justement, Maria Gabriel, c'est la question de confiance en quelque sorte, Maria Gabriel. Est-ce qu'on est mieux à l'intérieur à 27 ou à l'extérieur de l'Union européenne en temps de pandémie et de crise économique ? En 2021, les Britanniques ne sont plus avec nous. Est-ce qu'ils ont bien fait de quitter le navire ?
Alors, je dirais, en répondant avec une question, aurions-nous pu faire face à cette crise si nous étions chacun de son côté en dehors de l'Union européenne? J'y crois pas. Au contraire, quand on regarde, y compris ce qui se passe avec le vaccin, si on n'avait pas investi depuis des décennies dans la recherche fondamentale, cela aurait été impossible de pouvoir livrer les vaccins aussi rapidement. C'est la même chose, il faut aussi le rappeler. Si aujourd'hui, UK se vante avec autant de résultats, c'est aussi parce que des millions de doses ont été envoyées de l'Union européenne. Donc, en cela, nous montrons encore une fois la valeur ajoutée de notre approche et on attend tous les plans de relance de nos États membres de pouvoir le prouver. Oui, il nous faut des instruments qui sont innovants, mais il nous faut aussi des instruments flexibles pour que ça puisse atteindre les jeunes, les régions, ceux qui sont plus vulnérables, ceux qui sont en manque encore de soutien en ce moment crucial quand ils veulent nous proposer une solution. Donc pour moi, maintenant, la question est de rester en synergie avec les instruments dont nous disposons, avec les nouveaux moyens qui sont mis à disposition des États membres, mais surtout avec le centre, cet esprit de solidarité, cet esprit de coordination qui, nous l'avons appris, oui, ce n'est pas une donne, il faut s'y battre, se battre chaque jour pour pouvoir avancer ensemble.
Alors, Raphaël Glucksmann, cette crise du Covid a mis en évidence les failles de l'Union européenne. Vous l'avez dit, Clément Beaune l'a dit. Vous avez même déjà spontanément parlé des priorités, par exemple la politique industrielle. Mais aujourd'hui, dans toutes les réactions qu'on a reçues, il y a quand même pas mal de critiques. Des gens qui attendent, en fait, des projets concrets pour les citoyens. Alors, il y a un sommet social. Quelle peut être la priorité ? Qu'est-ce qui peut faire rêver aujourd'hui les citoyens européens et faire en sorte qu'ils ont envie d'adhérer au projet européen ?
Il y a aujourd'hui une page d'histoire qui se tourne partout dans le monde. Regardez ce qui se passe à Washington. Il y a un momentum pour sortir des politiques qui ont été menées depuis 40 années. Ces politiques qui visaient en fait à ouvrir aux quatre vents de la globalisation l'ensemble des territoires sur la Terre. Et cette politique-là a échoué. Elle a échoué écologiquement, elle a échoué socialement et elle a échoué en termes politiques puisqu'elle a rendu l'Europe dépendante en tout point de la Chine. Moi, j'aimerais qu'on revienne sur la prise de conscience qui a eu lieu au début du premier confinement. On s'est rendu compte partout en Europe qu'on était devenu incapable de produire du paracétamol, de produire du curare pour nos hôpitaux, de produire des masques et des blouses. On a tous le souvenir des pirouettes sémantiques incroyables qui ont dû être inventées par nos dirigeants pour justifier les pénuries. Et qu'est-ce qu'on tire comme leçon de cela? Et la réponse à cela, c'est de dire que l'Europe vous permettra, citoyennes et citoyens, eh bien de mener une existence autonome, d'être libre dans vos vies. Mais ça suppose quoi? Ça suppose à nouveau d'être un continent producteur et pas simplement de consommateur. Ça suppose, eh bien oui, de sortir de cette idée que on va abaisser les douanes pour tout le monde et que on va pas protéger les champions industriels européens. Moi, j'aimerais une Europe qui, en gros, protège les producteurs européens, qui passent le Buy European Act, réservant les marchés européens aux producteurs européens. Une Europe qui protège les travailleurs en Europe et qui, finalement, ne se résolve pas à une destinée de consommateurs ou d'oies gavées au Made in China. Moi, je veux qu'on ait un rôle dans l'avenir, qu'on puisse maîtriser notre destin.
Beaucoup de questions sur la place de cette Europe dans le monde, dont Henri qui s'interroge. Quel intérêt de donner plus de pouvoir aux États, donc s'ils n'ont aucune puissance à l'international. Il faut faire une Europe fédérale, point d'exclamation pour Henri. Alors Clément Beaune, ensemble à 27, on a l'air plus fort en effet dans le monde, mais on a quand même du mal à se mettre d'accord sur une diplomatie.
Oui, on a parfois du mal à se mettre d'accord sur une diplomatie parce que ça fait partie des domaines qui traditionnellement sont les plus nationaux. Mais on voit bien, effectivement, je crois que c'est exactement la bonne question, il y a encore des difficultés à agir ensemble en Europe parce que parfois nos processus de décision à l'unanimité sont trop compliqués, trop longs, c'est vrai, parce que parfois on a gardé une forme d'attitude un peu trop bisounours et pas assez mordante, si je puis dire, ou affirmée de puissance dans la mondialisation face à la Chine, face à la Russie, face à la Turquie, même si je crois profondément que c'est en train de changer. Mais posons-nous toujours la question, est-ce que tout ça, aujourd'hui, on peut raisonnablement, si on veut produire plus, si on veut être plus fort, si on veut défendre nos intérêts face à ces grandes puissances, le faire mieux au niveau national? Moi, je suis convaincu, et ça n'est pas une critique de l'État, des pays ou des nations, pas du tout, qu'on ne peut pas le faire puissamment au niveau national. Et donc, on est dans cette espèce de moment de vérité où on ne peut pas faire assez vite et assez fort au niveau national un seul pays européen, chacun dans son coin, et on n'a pas encore tous les outils de diplomatie, de politique commerciale pour s'affirmer comme européen dans le monde. Et l'enjeu de la décennie qui vient, même c'est l'enjeu en ce moment, mais qu'il faut construire dans les années qui viennent, c'est d'avoir cette diplomatie ferme, cette défense européenne commune, cette capacité à tenir bon dans les relations commerciales, à être moins dépendant des grandes puissances extérieures. C'est comme ça qu'on doit agir en européen, et c'est ça qu'on doit construire aujourd'hui. Cette crise est un accélérateur.
Alors, être une grande puissance, être ferme tout en respectant les droits de l'homme. Tanguy nous interpelle et fait une petite remarque qui s'adresse à Raphaël Glucksmann. C'est le seul à s'engager et à alerter à 1000% sur la situation de l'Afrique, des Ouïghours en Chine, etc. Qu'est-ce que vous avez à lui répondre, Maria Gabriel, vous qui êtes membre de la Commission? Est-ce que la Commission en fait assez pour les droits de l'homme? Et puis aussi, est-ce qu'il n'y a pas un peu une compétition entre les valeurs et l'affirmation de cette grande puissance?
Bon, d'abord, je pense que en ce qui relève des compétences de la Commission a été toujours très cohérente dans la défense des droits de l'homme. Cela fait partie de nos droits fondamentaux et de ces principes qu'on voudrait continuer à promouvoir. On se rend compte qu'aujourd'hui, il y a de nouvelles menaces. Ça vient avec les nouvelles technologies. Il y a des tensions géopolitiques qui sont là. Mais c'est une raison de plus pour qu'on continue à les défendre avec force. Et je donne tout de suite l'exemple du fait que nous devons aussi maintenant maintenant actualiser certains des anciens approches, des anciennes attitudes. Je donne l'exemple que c'est cette année que nous allons proposer une approche globale de la recherche et de l'innovation, une stratégie qui n'a pas été actualisée depuis 2012 et dans laquelle justement nous mettons au centre des libertés comme la liberté académique, des standards éthiques, et ça en disant clairement à nos partenaires. Et en cela, je pense qu'il y a clairement un changement dans l'approche que l'Union adopte de plus en plus. Maintenant, ce sera à nous tous de le mener à bonne fin et de pouvoir affirmer l'Europe comme une puissance pour laquelle les droits de l'homme, c'est au centre de ses politiques.
Raphaël Glucksmann, vous avez été justement nommément interpellé sur l'Afrique. Beaucoup de questions d'ailleurs sur la relation complexe entre l'Union européenne et le continent africain. Quelle loi ? Pourquoi l'Europe asphyxie l'Afrique par la RDC, la République démocratique du Congo ? Quelle serait l'Europe sans l'Afrique ? Et pourquoi l'Europe ne laisse pas chacun se développer à sa manière sans ingérence ? Qu'est-ce que vous répondez à cet Africain ?
D'abord, j'aimerais revenir sur ce qui a été dit, parce que je ne suis pas sûr, moi, que la Commission européenne ait toujours fait le maximum pour les droits humains et ait toujours placé la question des droits humains au-dessus des intérêts à court terme de certaines entreprises européennes. Parce que sinon, comment m'expliquer la volonté, en toute hâte, de signer l'accord d'investissement avec la Chine à la fin du mois de décembre 2020 ? Je veux dire, on a là un régime qui parque dans des camps de concentration des êtres humains, des centaines de milliers d'êtres humains, simplement parce qu'ils sont nés ouïghours et qu'il est réduit en esclavage au profit des grandes multinationales mondiales. Et c'est avec ce régime que la Commission européenne et les États membres, en premier lieu Monsieur Macron et Madame Merkel, ont décidé de signer l'accord d'investissement alors qu'ils ne comprenaient aucun engagement ferme sur la question des droits humains. Et je pense justement que c'est une erreur. Moi, je pense que nos intérêts à long terme, c'est précisément de défendre nos principes parce que quand on prend l'accord d'investissement avec la Chine, ça va à l'encontre de nos principes et ça va à l'encontre de nos intérêts à long terme en rendant encore plus dépendants nos économies via des transferts de capitaux accrus de l'appareil productif chinois. Quant à l'Afrique, moi, je pense qu'il faut un partenariat. Ce partenariat, c'est pas de l'ingérence. Il faut un partenariat avec l'Afrique. Parce qu'en fait, notre avenir dépend du continent africain. Et je trouve que jusqu'ici, il y a un déficit, en fait, de préoccupation européenne sur la question africaine. Je ne crois pas que l'Union européenne en tant que telle multiplie les ingérences en Afrique. Je pense au contraire qu'il y a une sorte d'impensé africain de l'Union européenne. Or, nous avons besoin, en fait, d'une politique de co-développement et de relations poussées avec le continent africain parce que on ne pourra pas, en Europe, réussir sans la réussite africaine.
Alors, Clément Beaune, je vois que vous avez envie de réagir, mais le temps presse. On va vous demander de conclure avec quelques mots pour qualifier la place de l'Europe dans le monde.
J'en profite pour réagir en même temps, parce que ça répond à la question, au fond, sur la Chine. Il faut reconnaître que la naïveté européenne qu'il y avait en matière commerciale, par exemple, a considérablement changé ces dernières années. On a renforcé nos règles anti-dumping. Même l'accord qui a été évoqué, je pense que sur le plan commercial, il est plus avantageux pour protéger ou pour ouvrir des marchés à nos entreprises. Et puis sur des questions comme celle des droits de l'homme, qui sont évidemment fondamentales, je crois que ce qui se passe est révélateur. On a dit que dans cet accord, il devait y avoir le respect de conventions internationales sur le travail forcé. Ça concerne évidemment directement la situation des Ouïghours. Le Parlement européen, et tant mieux, met la pression pour qu'on vérifie que ces engagements sont pris, voire qu'on aille au-delà. Et la Commission en a tenu compte avec notre soutien. Je pense que c'est une bonne chose pour suspendre ce processus de ratification, pour vérifier que ces engagements vont être tenus. Et s'ils ne le sont pas, il n'y aura pas d'accord. Donc on est très clair là-dessus. Et je crois que c'est emblématique de cette place de l'Europe dans le monde, parce qu'au fond, la souveraineté européenne dont on parle souvent, c'est ça. C'est la capacité à défendre et à promouvoir ses intérêts et ses valeurs. Il y a des intérêts et des valeurs spécifiquement européens qui réunissent nos pays et qu'on défend de manière plus efficace et plus forte ensemble. Et je crois qu'on a pris ce tournant. Maintenant, il faut sans doute accélérer. La crise nous l'a montré.
Merci à tous les trois d'avoir répondu à notre invitation. Merci à nos auditeurs, téléspectateurs, pour vos nombreuses questions passionnées pour cette spéciale fête de l'Europe. Alors, pour être bien informés sur l'actualité européenne, restez fidèles à nos antennes. On en parle tous les jours.
RFI, chez vous au quotidien et partout.